la plus grande des particularités est qu'il dévoile une facette qui était encore assez méconnue de mon île déjà, que la population connaît, mais que, on va dire, ceux des circuits touristiques ne connaissent pas forcément. Ce livre parle beaucoup de l'ésotérisme et du mysticisme qui règne sur notre île. On dit souvent dans la culture populaire que notre territoire afro-asiatique, parce que la Réunion c'est une terre africaine, mais aussi un croisement entre l'Asie et l'Afrique, notre territoire afro-asiatique est régi par le monde des esprits. C'est ce qui se dit dans les couches populaires. Et donc, la population a pris pour coutume d'effectuer différents rituels avant chaque moment important. Et la population est ancrée dans une culture, on va dire, spirituelle très très forte. Et notre identité a été construite avec le mysticisme, avec ce qu'on pourrait appeler entre guillemets des légendes, mais aussi des faits qui se sont déroulés. Et on voue souvent nos journées aux esprits, qu'ils soient naturels ou ancestraux, mais aussi on honore la nature. C'est une population animiste.
Et que représente pour vous le fait que votre ouvrage se trouve actuellement à la bibliothèque du Congrès américain ?
C'est très important parce que le paradigme réunionnais a quelque chose à apporter à l'universalité du monde. Le paradigme réunionnais, c'est aussi un peuple multiethnique, venu d'un peu partout, mais aussi un territoire d'Afrique, qui a su, malgré un passé très difficile, qui est dû à l'esclavage, à la ségrégation aussi d'après l'abolition de 1848, et aussi malgré le colorisme qui a longtemps régné chez nous, qui est lié à l'archaïsme de la hiérarchisation raciale. Malgré tout cela, la Réunion a su se construire dans son identité au travers d'une langue commune, la langue réunionnaise, mais aussi, quelles que soient les faciès et la couleur de peau, au travers une identité marquante dont le mysticisme fait partie. Donc, pour nous, c'est important. Demain, un sénateur américain au Congrès qui tombe sur ce livre, peut-être que cela peut influencer le monde. Donc, qu'il soit au Congrès américain, c'est très important parce que nous sommes tous des êtres humains et on s'influence l'un l'autre et que ce paradigme puisse avoir sa place, le paradigme réunionnais puisse avoir sa place au sein du Congrès américain, c'est dire au monde, on existe et on partage avec vous ce que nous avons compris, une forme de sagesse malgré notre histoire douloureuse.
Pourquoi les gens devraient-ils lire ce bouquin ?
On dit souvent que le visible est régi par l'invisible. On est tous des humains sur un vaisseau spatial, la Terre, et souvent il se passe des choses, des matérialisations qui viennent déjà de l'esprit humain. Comme on dit dans les livres védiques comme Bhagavad Gita, on peut le dire, c'est qu'une réalisation dans la matière naît d'abord dans l'abstrait, dans l'idée, comme on le dit dans ce livre-là. Et donc, ce livre touche tout le monde, toutes les couches populaires, parce que nous sommes tous régis par cet invisible qui est présent, mais qu'on peut rarement voir. On peut le sentir, certains peuvent le voir, mais cet invisible est là, et on ne peut pas le fuir, on ne peut pas le nier. Donc ce livre compte beaucoup dans l'histoire de l'humanité, et ce livre compte beaucoup, sans prétention bien sûr, hein, compte beaucoup dans le fait que les gens s'intéressent un tant soit peu à ce qu'il y a derrière cette matière. Alors ils trouveront leur compte.
Comment ce livre en est-il venu à être sélectionné à la bibliothèque du Congrès américain ?
Ce livre, quand je l'ai écrit, au début, comme tout livre, j'ai un peu, on va dire, passé tous les obstacles pour le faire connaître, difficilement bien sûr, parce que étant un jeune auteur, et c'est grâce à Monsieur Jérémy Maradas Nado, professeur de taekwondo et très connu sur la ville de Paris pour avoir été l'un des leaders du mouvement des Black Dragons qui a combattu le racisme et les skinheads à Paris, c'est grâce à lui qui avait déjà intégré le Congrès américain en tant que philosophe urbain. C'est grâce à lui que j'ai pu faire connaître ce livre et parce qu'il a été touché par ce livre, par mon œuvre. Il a voulu me donner la force comme il le donne souvent aux jeunes. Et donc, ce livre a pu faire son chemin. Maintenant, je pense que ce livre, dans sa rareté, c'est-à-dire on parle réellement d'un pan de l'humanité que l'on a rarement étudié, c'est-à-dire le mysticisme et qui plus est réunionnais. On a étudié le mysticisme, mais pas spécifiquement celui de l'Afrique, forcément. Donc, il est normal que le Congrès américain, à un moment, s'intéresse. Et il est normal parce que dans sa recherche de réunir les livres les plus pertinents sur différents sujets, alors ils ont décidé de prendre le mien. Et c'est un honneur parce que pour moi, cela veut dire que, encore une fois, ce livre-là permet de mieux comprendre, parce que c'est le but, c'est l'objectif. Et donc, il faut savoir qu'il est rentré sous l'ère de Carla Hayden, une femme afro-américaine qui a été nommée par Barack Obama. Et c'est sous son ère à elle que cela a pu se faire.
Merci en tout cas. D'autres projets d'écriture ?
Il y en a d'autres. Là, j'écris la suite de mon troisième livre, Mafia Créole, qui était un livre sur les sociétés post-esclavagistes dans les îles. Ce quatrième livre-là arrive bientôt. Il est au fourneau, comme on dit. Et là, je prépare un livre illustré qui sera aussi une bande dessinée, c'est-à-dire Island of Kings, c'est-à-dire qui portera sur le marronnage spécifique dans mon pays, sur mon île, La Réunion. Le marronnage qui a été la résistance anti-esclavagiste. Nous avons eu un empire marron à l'île de La Réunion, tout comme en Haïti, tout comme au Brésil. Nous avons eu des rois et des reines qui se sont soulevés contre l'oppression et qui se sont soulevés contre toute forme d'asservissement et qui ont construit des royaumes qui sont partis en coalition pour former un empire.
Très, très intéressant. Mais comment êtes-vous venu à l'écriture ?
J'étais tout petit, il faut rendre hommage à mon grand-père. Ma famille, nous sommes descendants du roi Regna Rivoni, le dernier roi Ova de Madagascar. Nous sommes de la même caste, la caste des Ova. Ma famille a toujours eu pour objectif, en arrivant à l'île de la Réunion, d'instruire les Noirs, d'instruire les descendants d'esclaves, même durant la période esclavagiste. Mon grand-père était l'un de ceux qui, né en 1927, qui était instruit, parce que tous les membres de la famille étaient instruits de par notre ascendance. Et donc nous, déjà notre travail, même durant l'esclavage, c'était justement de permettre aux Noirs de se défendre déjà juridiquement, mais aussi pour ne pas se faire voler leurs terres, parce qu'il y a des Noirs qui réussissaient à récupérer des terres, mais comme ils ne savaient pas lire et écrire, souvent ils se faisaient escroquer, arnaquer. Et donc le travail de ma famille, c'était déjà de pouvoir éveiller la conscience intellectuelle, emmener une prise de conscience. Pour cela, mon grand-père a continué le combat. Et il écrivait toujours. Il était assis à sa table, je le voyais toujours en train d'écrire. Et c'est ça qui m'a donné l'envie d'écrire. Après, mon père et ses frères et ses cousins ont repris le combat, notamment au travers du domaine artistique, parce qu'on a eu de grands succès, comme avec les groupes Baster et Oussanou Sava. Mais vraiment, c'est mon grand-père, dans sa position en train d'écrire tous les jours, chaque fois que j'allais le voir, il écrivait. Il descendait aussi, quand il était jeune, d'après ce que me racontaient les anciens, dans la ville de Saint-Pierre de la Réunion avec des livres et des cahiers pour instruire ses compagnons de route, pour leur dire, leur parler de leurs droits. C'est pour ça qu'il a subi un an d'enfermement, parce qu'il a combattu le colonialisme à la Réunion. Je descends de ces gens-là. Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, l'écriture est devenue mon outil pour exprimer mon exutoire, mais aussi mon arme pour me défendre. Et l'écriture, c'est une porte de voyage pour moi, mais aussi une clé pour pouvoir ouvrir des portes dans l'esprit des gens.
Il est incontestable votre héritage. Pour terminer, que faites-vous à côté de l'écriture ?
En dehors de l'écriture, je gère une association déjà, Leaders of Africa, une association qui est en relation avec le gouvernement mozambicain, parce que nous avons aussi des origines mozambicaines. Nous faisons partie de la diaspora mozambicaine au travers de la tribu Makwa. Donc voilà, je suis à moitié mozambicain, descendant de mozambicain et de malgache. Et donc, je gère une association en tant que président qui a fait un partenariat aussi avec des entreprises de textiles sur place au Mozambique, Karingana, Wakaringana, Ghana et Wugi, ainsi que l'association Iverka dans le quartier de Mafalala. Aujourd'hui, nous continuons nos actions, notamment pour la culture, mais aussi pour l'échange économique et culturel entre le Mozambique et l'île de la Réunion, parce qu'il y a une grosse diaspora mozambicaine. Il faut savoir que je suis réalisateur de films d'animation. J'ai créé des films d'animation sur mes ancêtres, déjà, qui ont marqué le marronnage, mais aussi sur l'histoire de mon pays en général. J'interviens aussi dans les écoles en tant qu'intervenant pour l'éducation nationale, pour la transmission et le devoir de mémoire. Et puis, je gère aussi mon groupe, ma fraternité, la cause CAF ou le KZKF, qui est un mouvement, une fraternité plutôt, qui aide les couches populaires, quel que soit où ils se trouvent, et qui permet aux couches populaires, notamment au travers de l'éducation, mais aussi dans le partage et la solidarité, à prendre conscience du devoir de mémoire. Parce que le devoir de mémoire nous permet de ne pas reproduire ce que nous avons subi. L'important, c'est de prendre les devants pour pouvoir inspirer la jeunesse, quel que soit le faciès, le phénotype des gens, c'est pas le problème. Quand quelqu'un a le ventre vide, il n'y a pas de couleur. Donc nous, on est là, on intervient dans les distributions de repas et tout ça, et ça nous permet de discuter et d'échanger notamment. On essaie d'empêcher les jeunes de tomber dans le côté un peu trop radical ou sombre des choses. Donc on essaie de discuter et d'échanger avec eux.